des scènes, des évangiles qu'on arrive plus facilement que d'autres à se représenter. On arrive assez bien à imaginer comment pouvait être Jésus quand il enseignait, peut-être à ses disciples. On a peut-être en tête même des dessins, on peut un petit peu dessiner la scène. On a des tableaux quand il parlait aux foules. Certains de ces miracles dans les évangiles sont décrits avec suffisamment de détails pour qu'on puisse se représenter la scène, au moins un peu. Mais comment imaginer, par exemple, d'autres moments, l'épisode de la transfiguration, par exemple, de Jésus, ou comment imaginer la scène étonnante des tentations de Jésus dans le désert? Peut-être on n'a pas besoin de s'imaginer, on va lire maintenant, du coup, ce que l'évangéliste Luc nous rapporte au chapitre 4, les versets 1 à 13. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Le diable conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder, et encore ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à imaginer cet épisode. Jésus ici est quand même en train de dialoguer avec le diable. Ce n'est pas banal. D'ailleurs, on peut se demander comment aussi on a pu avoir connaissance de ce récit, puisqu'il semble bien qu'il n'y ait pas de témoin. On est au lendemain du baptême de Jésus, il n'a pas encore vraiment commencé son ministère public, il n'a encore aucun disciple qui le suit, presque personne ne le connaît. Aucun compagnon, ni témoin de ces événements n'est mentionné. Jésus a-t-il raconté plus tard à ses disciples ce qu'il avait vécu pendant ces 40 jours? Est-ce une façon d'évoquer les enjeux aussi du ministère de Jésus au début de l'évangile de Luc? Les différentes tentations de Jésus dans ce récit font effectivement écho à ce que Jésus vivra par la suite. Par exemple, lorsque les foules voudront le faire roi ou lorsque les chefs religieux voudront le pousser à accomplir des miracles juste pour prouver qui il est. Des phrases du type « Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci ou cela. Si tu es le Fils de Dieu, pourquoi fais-tu ceci et ne fais-tu pas cela ?» Jésus va en entendre tout au long de son ministère. On peut très bien comprendre que Jésus ait eu besoin de se retirer dans le désert juste après son baptême et avant son ministère public. Les commentateurs, d'ailleurs, nous font une remarque intéressante, que Jésus revit ici l'Exode, la traversée de la mer des roseaux, c'est son baptême dans le Jourdain, hein. Il passe par l'eau, puis ensuite il va au désert, 40 jours, renvoyant aux 40 ans du peuple d'Israël dans le désert. Mais il sera victorieux, Jésus, là où le peuple d'Israël a échoué. Dans l'évangile de Matthieu, où la tentation de Jésus nous est aussi rapportée, c'est peut-être encore plus clair, parce que juste avant le baptême, dans l'évangile de Matthieu, Jésus même quitte l'Égypte, où il avait fui avec ses parents. On peut effectivement constater que les tentations que vit Jésus à ce moment-là sont proches aussi de celles qu'a connues le peuple au désert. Tentation avec la nourriture, tentation de l'idolâtrie, tentation liée à un manque de confiance dans la bienveillance de Dieu. En tout cas, dans ce temps que prend Jésus à l'écart, seul au désert, Jésus a été confronté à des questions, des interrogations, des tentations sur ce qu'il allait vivre. Et c'est ce dont il est question dans ce texte. Alors cet épisode nous dit quelque chose de la personne de Jésus, de sa mission, mais ce texte a aussi quelque chose à nous dire à nous, aujourd'hui. Car le dialogue entre Jésus et le diable peut faire écho à nos propres tentations, à nos dialogues intérieurs peut-être, nos propres tentations auxquelles nous devons résister. Le diable a une tactique, et dans sa première tentation, sa tactique consiste à dire une vérité. Il sait que Jésus peut faire ce qu'il lui suggère, à savoir changer les pierres en pain. Jésus peut parfaitement le faire. D'ailleurs, plus tard, Jésus a même multiplié les pains et les poissons. C'est tout à fait dans ses cordes. En quoi alors est-ce une tentation à laquelle Jésus doit résister ? Alors c'est vrai, il a faim, probablement extrêmement faim. Hein. On peut s'imaginer qu'au bout d'un jeûne de 40 jours, ça doit être terrible. Il peut changer une pierre en pain, alors pourquoi ne le ferait-il pas ? En Jean, chapitre 4, verset 34, Jésus dit « Ma nourriture... c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de terminer le travail qu'il m'a confié. » La parole du diable, en fait, la tentation qui est derrière cette parole-là, c'est d'éloigner Jésus de sa mission. Jésus n'est pas venu pour accomplir des miracles pour lui-même. Et si à ce moment-là, il l'avait fait, ça n'aurait pas collé avec la mission qu'il est venu accomplir. Il n'est pas venu pour lui-même. Il n'est pas venu pour emprunter le chemin de la facilité et utiliser ses pouvoirs pour lui-même. Il a nourri une foule. Il a multiplié les pains et les poissons pour les autres. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Il n'est pas venu en super-héros doté de super-pouvoirs qu'il utilise pour lui, il est venu en serviteur humain parmi les humains. Et en résistant à cette première tentation, Jésus montre aussi que ses besoins physiques à lui ne sont pas prioritaires sur la mission que le Père lui a confiée. Deuxième tentation, alors peut-être que comme la première tentation n'a pas marché, le diable essaye d'une autre façon, mais cette fois-ci, le diable ne dit pas la vérité. Dans la première tentation, le diable disait la vérité. Jésus peut changer ses pierres en pain. Dans la deuxième tentation, le diable ment. Il ment car il n'a pas le pouvoir qu'il prétend avoir. Il ne peut pas disposer de la puissance et de la gloire des royaumes de la terre et les donner à qui il veut. Ce n'est pas bibliquement dans les prérogatives du diable. C'est Dieu qui peut faire cela. Comment le diable pouvait-il croire que cette deuxième tentation allait fonctionner ? Pensait-il vraiment que Jésus, le Fils de Dieu, allait se prosterner devant lui par soif de pouvoir personnel ? Ma lecture me fait dire que le diable apparaît ici comme étant lui-même aveuglé par son propre orgueil et sa soif de puissance à lui. Il ne peut même pas imaginer un autre chemin que celui du pouvoir, de l'orgueil et d'écraser les autres. Et c'est pour ça qu'il est capable de ce mensonge qu'on pourrait dire gros comme une maison. Et très souvent dans les tentations, il y a une part de mensonge, une bonne part de mensonge. On croit qu'on va être heureux en désobéissant à Dieu. Et en réalité, c'est juste l'inverse qui se produit. Le diable ne peut même pas imaginer un autre chemin, celui de l'humilité, celui de l'amour, celui du service. Alors le diable essaye ensuite une troisième tentation, parce qu'à chaque fois Jésus lui répond, et on va dire, ça lui cloue le bec quand même. Alors il essaye une troisième fois, une nouvelle stratégie. Il tente cette fois-ci de jouer sur le terrain de Jésus, de l'imiter. Comme Jésus a répondu en citant la Bible, eh bien il va lui aussi argumenter et citer la Bible. Comme quoi, il ne suffit pas de citer la Bible pour avoir raison. On peut citer des versets bibliques et se tromper, et même faire l'œuvre du diable. On peut faire dire, je crois, à peu près n'importe quoi à la Bible en citant des versets isolés de leur contexte, ce que le diable fait ici. Car en l'occurrence, ce n'est pas parce que Dieu peut nous protéger et nous garder qu'il faut intentionnellement se mettre en situation de danger juste pour le tester. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors résister à la tentation, c'est choisir le bon chemin. Dans ces trois tentations, le diable propose à Jésus un chemin de facilité. Un chemin qui est celui aussi du pouvoir et de la force écrasante. Mais Jésus est venu emprunter le chemin du serviteur, celui de l'humilité, celui de la solidarité avec les êtres humains que nous sommes. Le diable croit sans doute, car il est aveuglé effectivement par son orgueil, il croit sans doute à ce qu'il dit, mais il est incapable de comprendre le bon chemin. Celui de l'amour, de l'humilité, du service. Il ne connaît que la recherche de la gloire, du pouvoir et de la force. Il ne peut pas comprendre que la victoire de Jésus passera par la solidarité, la souffrance jusqu'à la mort. Et d'ailleurs, sur la croix, alors que le diable pensait avoir vaincu, il a fait des choses, le diable il a agi pour que Jésus soit mis à mort. Eh bien, c'est à la croix que le diable venait d'être vaincu. Il n'a pas vu venir sa propre défaite, car Jésus est alors allé jusqu'au bout de sa mission, solidaire de l'humanité, jusque dans la mort. En tant que disciples de Jésus, nous devons nous aussi résister aux tentations du pouvoir et de la force, résister aux sirènes de la gloire et emprunter à la suite du Seigneur le chemin du service. Ça doit être vrai dans nos relations les uns avec les autres. Dans l'Église, l'idéal est celui, le modèle du service mutuel, de la soumission les uns aux autres. Mais ça doit aussi être vrai dans nos relations au quotidien, sur nos lieux de vie. Comme j'aime le rappeler, on ne peut pas se satisfaire en tant que croyant d'avoir un comportement le dimanche, un comportement de bon chrétien avec nos frères et sœurs croyants et de tout oublier. Le reste de la semaine sur nos différents lieux de vie, au quotidien, dans la famille, au travail ou encore avec les amis. C'est vrai que dans notre société, il y a des discours, il y a des forces, des incitations qui nous poussent à penser notre relation en termes de rapport de force, en termes de rivalité, en termes de concurrence ou même encore de peur. Nous devons résister à cette tentation-là en particulier, et choisir le chemin de l'humilité et du service. C'est notre appel de disciples de Jésus. Les trois textes que Jésus cite pour répondre aux trois tentations sont tous tirés du livre du Deutéronome. Et ces textes soulignent la juste posture à adopter devant Dieu, celle qui nous fait tenir bon dans l'épreuve et rester fort face à la tentation. Alors je disais que ce n'est pas le chemin de la force qu'il faut rechercher, mais là c'est une force intérieure, une force qui n'écrase pas, une force qui ne domine pas, une force de sagesse, cet esprit que Dieu nous a donné, qui n'est pas un esprit de timidité, mais d'amour, de force et de sagesse. Il y a deux forces différentes dans la vie. Et on peut rester fort face à la tentation en nous inspirant de la façon dont Jésus lui-même a répondu à ces tentations. L'être humain ne vivra pas de pain seulement. Il y a certes des besoins physiologiques et matériels fondamentaux, mais notre besoin le plus essentiel est spirituel. La nourriture dont nous avons besoin pour vivre pleinement vient de Dieu lui-même, ses paroles, ses promesses, ses commandements. Adore le Seigneur ton Dieu et ne rende culte qu'à lui seul. Alors il s'agit non pas de se prosterner pour obtenir quelque chose en retour, comme le proposait le diable, mais d'adorer Dieu parce qu'il est le seul qui soit digne d'être adoré. Quand on connaît Dieu, c'est une évidence qu'il est le seul digne d'être adoré, le seul devant qui nous devons nous prosterner, nous incliner. Et c'est une source d'espérance extraordinaire parce que Dieu, ce Dieu unique, incomparable, nous aime aussi d'une manière parfaite. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, ou tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, selon les traductions. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il doit faire pour nous ou pour les autres, ou encore pire, de lui reprocher ce qu'il ne fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on est confiant, tout simplement, dans la bienveillance de Dieu. Dieu est bienveillant et on lui fait confiance. Ces trois paroles bibliques citées par Jésus nous disent comment faire pour être fort et résister à la tentation. Il s'agit donc de nous nourrir spirituellement de cette parole qui sort de la bouche de Dieu, de puiser notre force dans le Dieu unique et fort que nous adorons, lui seul, et de lui faire confiance, car il nous promet sa présence et son secours. Il est bienveillant envers nous. Je pense que ces trois versets que Jésus cite pour résister face à la tentation, ce n'est peut-être pas les premiers auxquels on aurait pensé dans nos tentations, mais peuvent nous aider à être plus forts et à tenir dans l'épreuve. Or, pour conclure, je vais aussi relire un texte qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, dans lequel Jésus est comparé à un grand prêtre. Hébreux 4, versets 15 et 16. « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été mis à l'épreuve en tout, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. » Jésus-Christ a enduré des épreuves, il a résisté à la tentation, il a vécu cela comme nous, nous dit ce texte, mais sans commettre de péché, sans jamais succomber à la tentation. Cela dit, il ne nous regarde pas pour autant de haut, nous qui chutons, nous qui succombons. Avec un regard qui serait implacable, il nous regarde avec bienveillance et avec grâce et nous propose son secours même lorsque nous tombons. Il nous accompagne sur le chemin du serviteur, il nous aide à tenir bon par la puissance de son esprit et renouvelé par sa grâce. Amen.